Sons d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, la saga du Brexit, on ne compte plus les épisodes. Aujourd'hui, dernier en date, celui où les dirigeants européens accentuent leur pression tout en acceptant un report de la sortie de l'Union européenne au 12 avril. Mais il faudra que Theresa May obtienne cette fois l'approbation de son Parlement. Et d'ici là, dit le président du Conseil européen Donald Tusk, toutes les options sont ouvertes. Face à ces débats sans fin, les Britanniques oscillent entre colère et fatalisme face à leur première ministre. Mais surtout, leur arme secrète, c'est la dérision et les caricatures. Surtout quand Theresa May s'essaie à l'humour, avec plus ou moins de succès, notamment sur ce « Bonjour en pleine nuit » par exemple, Marie Billon.
Caresser ce petit morceau pelucheux pour ressentir une brève sensation de bien-être au milieu de ces ineptes négociations du Brexit. Alors on ne sait pas si cette affichette était collée sur les murs des bureaux du 10 Downing Street, mais la photo a été postée sur le Facebook de Very Brexit Problem, un fil d'actualité qui a décidé de prendre la sortie de l'UE par le petit bout de la lorgnette, l'humour. Ces négociations n'ont pas manqué de causticité, c'est juste qu'elle était très 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 bien cachée. Chaque journal, par exemple, a son caricaturiste. On a pu voir Theresa May prête à être propulsée à travers la Manche dans un canon protégé seulement par un casque en forme de licorne, symbole féerique et mythique des projets qu'elle présente à Bruxelles et qui relève plus du conte que de la réalité. Ou alors, dans la même veine, la première ministre enfourchant une prise anglaise avec ses trois dents en triangle, criant à ses ministres chargés pour qu'ils la poussent et l'emboîtent dans une prise murale européenne à seulement deux trous. Mission impossible, donc. Dans un autre dessin, on voit un Anglais en chapeau melon et veste en tweed sauter d'un avion pendant qu'un steward lui dit calmement « Puis-je vous suggérer d'utiliser un parachute ?»« Non merci, un drapeau suffira. » Ou encore l'Europe serrant la main au Royaume-Uni en signe d'amitié et puis le Royaume-Uni qui se scie le bras et s'en va sanguinolent mais tout heureux d'avoir pu s'échapper des griffes d'une Europe qui reste là et vers lui. Alors évidemment, il y a aussi les caricatures pro-Brexit comme le radeau Europe à la dérive qui perd sa première planche, le Royaume-Uni donc, pendant que d'autres menacent de se détacher rapidement. Humour british, humour pince sans rire, vous disiez, pour éviter de sombrer dans le désespoir, peut-être.
You're yelling across the chamber. Be quiet. Quiet. Calm yourself. Take up yoga. Mr. Ed Miliband. He didn't...
Bonjour Virginie Le Petit.
Bonjour Catherine.
Alors c'est avec vous qu'on feuillette cette semaine Courrier International. Et on commence évidemment par le Brexit et ses multiples rebondissements. Alors vous avez choisi de publier le portrait de l'une des bêtes noires du gouvernement britannique, John Bercow, le président de la Chambre des communes qui a fait parler de lui.
Oui, parce que c'est un personnage truculent et aussi parce qu'il ne cesse de prendre des décisions qui retardent le processus. Depuis son perchoir de la Chambre des communes, il est, selon le New York Times, qui lui consacre un portrait, l'un des seuls qui semble s'amuser dans ce triste purgatoire qu'est devenu Westminster. Son rôle, c'est de présider les débats et c'est une mission dans laquelle il use de son sens aigu de la répartie. D'ailleurs, le seul mode de communication entre les conservateurs et lui est désormais l'insulte. Le ministre de la Santé l'a traité récemment de nain, stupide et prétentieux, et nombre de Tories aimeraient qu'il se retire, ce qui ne l'affecte guère.
Alors le Brexit encore et ses conséquences, hein, c'est l'un des thèmes que vous avez choisi de traiter dans votre nouveau hors-série.
Oui, notre nouveau hors-série qui s'intitule donc « Une autre Europe est-elle possible ?». Dans ce hors-série, nous parlons du Brexit, des conséquences du divorce du Royaume-Uni avec l'Union européenne, des conséquences sur son économie, sa politique, son agriculture, mais aussi ses citoyens. Comme le rappelle un excellent article de Gary Young du Guardian, il appelle à reconsidérer les partisans du Brexit, à cesser de les infantiliser, à commencer un nouveau chapitre de l'histoire du pays, un véritable récit collectif.
Alors un récit collectif serait-il également nécessaire pour les citoyens de l'Union européenne? C'est la question posée.
Oui, c'est bien possible qu'il soit nécessaire. C'est le constat qui émerge des articles de ce hors-série, que ce soit dans la presse italienne, polonaise, hongroise. Une autre vision de l'Europe émerge, beaucoup plus souverainiste. Un reportage du Washington Post nous emmène même à Trisulti, près de Rome, où Steve Bannon a fondé son école du populisme. Et le journal italien La Sette démontre à quel point le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, mène le jeu en Europe. À l'approche des élections, l'Union doit absolument se réinventer.
Courrier international qui a choisi également à travers la presse européenne de faire le diagnostic de l'état de la France et de son président.
Oui, alors c'est sombre, hein, c'est le diagnostic de la dernière chance. Emmanuel Macron semblait être remonté dans les sondages avec le grand débat, mais les violences du 16 mars ont fait de lui à nouveau un président assiégé. Pourtant, il faut réagir et la France a besoin d'autorité. Ça, c'est ce qu'estime le quotidien suisse Le Temps. L'ordre doit être respecté dans notre pays pour que l'économie reprenne ses droits. Mais il faut aussi répondre à la colère. Les revendications exprimées sur les ronds-points doivent demeurer la priorité. Le besoin de référendum, le malaise des Français trop peu payés, trop taxés. Mais comment répondre à ces demandes? L'État français est malade et son obésité délite ses actions, estime Le Temps.
Alors, d'autres journaux font-ils le même constat?
Parfois, c'est pire. Pour le très conservateur quotidien espagnol ABC, la France est un pays saturé de fonctionnaires et de chômeurs, surchargé par une accumulation colossale de prestations, avec à sa tête un président déjà aussi usé qu'Angela Merkel. Côté allemand, la Süddeutsche Zeitung retient surtout les projets européens d'Emmanuel Macron. Alors, le quotidien bavarois salue les convictions du président français, mais celles-ci ne peuvent constituer une feuille de route. C'est trop vague, trop flou. Seul le quotidien italien de droite Il Foglio encourage réellement Emmanuel Macron.
Vous avez choisi également un article dans la presse croate qui se penche sur la crise démocratique européenne et également sur un autre symptôme, l'inflation d'acteurs comiques convertis en politique.
Oui, le point de départ de cet article, ce sont les élections ukrainiennes. Le 31 mars prochain, l'Ukraine s'apprête à élire son président et le favori, Volodymyr Zelensky, est favori pour le premier tour. Une situation qui s'est répétée à de nombreuses reprises en Europe ces dernières années, rappelle le quotidien croate Vesernji List. En Slovénie, par exemple, avec l'ancien acteur Marjan Šarec, devenu Premier ministre. En Italie, avec le comique Beppe Grillo, fondateur du mouvement 5 étoiles. En Islande, avec Jon Gnar, l'ancien maire de Reykjavik.
Merci Virginie. Ces récits et bien d'autres sont à découvrir dans le Courrier international de cette semaine et dans le hors-série Une autre Europe est-elle possible? À bientôt Virginie.
À bientôt.
Dans 8 jours, les Turcs vont devoir élire leur maire. L'AKP, le parti du président Erdogan, craignant d'être mis en difficulté dans les grandes villes qui ont permis son accession au pouvoir, n'hésite pas du coup à prendre ce scrutin en otage. Il est en fait question de la survie du parti et de tous ceux qui lui sont liés depuis près de 20 ans. Ainsi, pour les fondations proches de l'AKP, ces élections représentent un enjeu financier majeur. Ce sont elles qui accaparent les subventions municipales. Et à Istanbul, c'est le reportage d'Anand Lauer.
Sous une pluie glaçante, Devru Minal observe d'un air contrarié le chantier d'immeuble qui voisine le sien. 3 étages de béton se dressent déjà sur l'avenue Acıbadem, du nom de ce quartier tranquille de la rive asiatique d'Istanbul. Mais ce n'est pas tant l'inconfort d'un futur vis-à-vis qui tourmente Devrim, un architecte à la retraite.
En 1992, un propriétaire privé a cédé ce terrain de 6000 m2 à la mairie à la condition d'en user pour un service municipal, par exemple pour une caserne de pompiers ou un centre culturel. Début 2018, quand les travaux ont commencé, nous avons appris que la mairie avait alloué le bâtiment pour 30 ans à une fondation religieuse et que celle-ci voulait en faire un internat.
La fondation en question, Aziz Mahmoud Dudaï, fait partie d'une liste restreinte de fondations montées en puissance ces dernières années, à la faveur de liens étroits avec le Parti de la Justice et du Développement, l'AKP, au pouvoir, et parfois avec l'entourage familial du président Recep Tayyip Erdogan. Fin janvier, le quotidien d'opposition Sözcü a révélé l'ampleur des subventions versées par la mairie d'Istanbul à ces organismes privilégiés, dont les activités se concentrent sur la jeunesse et l'enseignement religieux. Selon le journal, qui affirme citer un rapport officiel pour l'année 2018, les sommes se chiffreraient en dizaines de millions d'euros, la part du lion, environ 12 millions d'euros, revenant à une fondation qui compte, parmi ses dirigeants, l'un des fils du chef de l'État. Tarık Balyalı, porte-parole du parti d'opposition CHP au conseil municipal d'Istanbul, dénonce depuis des années un système qu'il connaît bien.
La plupart du temps, la mairie signe un protocole dans lequel elle s'engage par exemple à prendre en charge la location d'un bâtiment utilisé comme internat ou comme crèche par une fondation et à payer tous ses frais d'entretien ou autres.
Tarık Balyalı le concède, il n'y a rien d'illégal dans ce rapport que RFI a pu consulter. Le problème, selon lui, est avant tout éthique.
Bien sûr que la mairie peut aider des fondations comme le prévoit la loi, mais ce que ne prévoit pas la loi, c'est que 50 millions d'euros du budget budget municipal soit consacré à un petit nombre de fondations, comme ce fut le cas en 2018. D'autant que la mairie d'Istanbul a commencé en 2019 avec un déficit de plus de 3 milliards d'euros. On ne trouve pas assez d'argent pour les investissements, mais on en trouve pour ces fondations dont le seul mérite est d'être proche du pouvoir. C'est légal, mais ce n'est pas éthique.
Selon l'élu d'opposition, à travers ces fondations, le pouvoir entend éduquer une nouvelle génération. Il rappelle que pendant des années, les subventions municipales ont profité à des organismes liés à Fethullah Gülen, le prédicateur soupçonné d'avoir fomenté le coup d'État manqué de l'été 2016. Les fidèles de l'imam étaient très actifs dans l'éducation, jusqu'à ce que leurs activités soient considérées comme terroristes et leurs établissements fermés par milliers.
Depuis le coup d'État manqué, et même un peu avant, le pouvoir essaie de combler le vide créé par la fermeture de ces établissements en favorisant de nouvelles associations et fondations. Tout ça dans le but de créer une génération fidèle au parti au pouvoir.
Contactée par RFI, la municipalité d'Istanbul s'est refusée à tout commentaire, se contentant de nier l'existence du rapport et de renvoyer vers un communiqué daté du 1er février. La mairie y dénonce une campagne de dénigrement qui ignore, je cite, « les efforts engagés pour prendre le contrôle des écoles et des internats de l'organisation terroriste de Fethullah Gülen ». Retour sous la pluie glaçante du quartier d'Ajebadem devant l'immeuble en chantier. La fondation Aziz Mahmoud Udaï, qui aurait reçu l'équivalent de 2,7 millions d'euros d'aide à Istanbul l'an dernier, dément la construction d'un internat dans ce quartier largement acquis à l'opposition. Selon un responsable joint par téléphone, il s'agira d'un centre culturel ouvert à tous. Toujours d'après ce responsable, les riverains qui s'opposent au projet représentent, je cite, « une certaine frange de la population que nos activités religieuses dérangent ». Hikmet Durkanoğlu, l'une de ses opposantes, s'étrangle en entendant ces mots.
Le pouvoir aussi dit ça pour plaire à sa base électorale. C'est toujours la même histoire. Il y a quelques mois, quand la mairie a autorisé l'édification d'une mosquée sur un terrain du quartier prévu pour être un espace vert, on nous a rétorqué « Vous êtes contre les mosquées ». C'est une tactique pour polariser le débat et nous pointer du doigt. Mais c'est faux. Même s'ils avaient voulu construire une école, nous nous y serions opposés pour garder notre espace vert.
Devrim Minal, l'architecte à la retraite qui conteste lui aussi l'attribution du bâtiment à une fondation, répond en brandissant les décisions de justice, la dernière en date du 10 décembre, qui ordonne l'arrêt des travaux au motif que le projet ne respecte pas le plan d'urbanisme et l'usage dévolu au terrain. Puis il ajoute de guerre lasse.
Ce pouvoir dit tout le temps qu'il représente les 80 millions de Turcs. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Son objectif, ici comme ailleurs, c'est de changer le tissu social de notre quartier.
Quel que soit l'objectif du parti au pouvoir, ces subventions massives sont l'un des enjeux méconnus des élections locales du 31 mars, où l'AKP espère notamment remporter un sixième mandat dans la plus grande ville turque, Istanbul. La ville où tout a commencé pour Recep Tayyip Erdogan, quand il en est devenu maire en 1994.
Cela fait bientôt 40 ans que le photographe Azir Reka promène son objectif au Kosovo. Des manifestations des années 80 contre la répression du régime Milosevic à la guerre de 1999 et l'interminable transition qui lui a succédé. Rencontre avec la mémoire photographique du Kosovo, Laurent Gélin.
Azir Reka raconte en images les quatre dernières décennies de l'histoire du Kosovo et la longue marche des Albanais pour leur indépendance. En 1981, le jeune homme suit des cours de photographie à l'université de Pristina, mais les manifestations étudiantes réclamant plus de droits pour les Albanais seront sa première école. À l'époque, nul n'imagine que la Yougoslavie tombera un jour. Pourtant, la fédération se désagrège progressivement. Au début des années 1990, la guerre embrase la Croatie et la Bosnie-Herzégovine et la répression du pouvoir serbe s'intensifie au Kosovo. Azir Reka documente les grèves, les arrestations, les premiers attentats de l'armée de libération du Kosovo, l'UÇK, et les combats qui finissent par se généraliser.
Les jeunes étaient habitués aux interpellations, mais ils voulaient vivre. La guerre, c'était terrible, mais au moins les choses étaient claires. Il fallait soit être du côté de l'UÇK, soit du côté des Serbes. Durant les manifestations qui avaient précédé à Pristina, personne ne savait d'où pouvait venir la répression, d'où pouvaient venir les balles.
En mars 1999, la population albanaise est expulsée du Kosovo par les forces de Slobodan Milošević. Azir Reka doit suivre la vague des réfugiés et ses images de femmes et d'enfants entassés dans des bus ou sur des charrettes font le tour du monde. Aujourd'hui, deux décennies après la fin des combats, le photographe est enfin reconnu à sa juste valeur. Et durant tout le printemps, ces images seront exposées en plein air dans la ville de Ferizaï, pour que l'histoire se transmette aux prochaines générations.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors, vous nous parlez aujourd'hui d'un certain petit chaperon rouge, mais heureusement un sans grand méchant loup.
Et oui, l'équateur britannique Piroshka, dont le nom désigne effectivement le petit chaperon rouge en hongrois, est ce que l'on a coutume d'appeler un super groupe, soit la réunion de musiciens qui ont déjà fait leurs preuves au sein d'autres formations. Et le casting ravive ainsi le souvenir de belles heures de quatre décennies de pop anglaise, avec Mickey Bereny, chanteuse et guitariste du groupe Lush, Mick Conroy, bassiste du groupe Modern English, Kevin McKillop, guitariste de Muse, et Justin Welch, qui fut le batteur d'Elastica. Tous n'ont pas été également gâtés par le succès ou la postérité, mais ils ont gardé intact et communicatif leur plaisir à jouer ensemble et à composer des chansons de pop à guitare, rehaussé ça et là d'une trompette rêveuse, comme sur ce Village of the Damned.
Et ça tombe bien, Axan vous laisse avec les petits chaperons rouges british de Piroshka. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. À la réalisation et à la mise en onde, Françoise Grelot.